Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre podcast dédié à l'actualité des sports automobiles américains sur US Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Adrien. Salut Adrien.
Bonjour Geoffroy, bonjour tout le monde.
Et Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, hello à tous.
Alors au programme de ce nouveau numéro, on va parler d'IndyCar avec la saison 2024 qui débute du côté de Saint-Pétersbourg en Floride. On parlera d'endurance avec ce qui s'était passé du côté du Qatar avec les 1812 km. C'était Losail ? Non, Dubaï ? Losail ?
L'oseille.
L'oseille, ouais, ok.
GP de l'oseille.
L'oseille.
L'oseille. Mais c'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir.
C'est pas faux. Et en NASCAR, on reviendra sur les courses de Vegas en Xfinity en truck et toute l'actualité qui en a découlé cette semaine, ce qui devrait nous faire un programme assez chargé. Allez messieurs, on commence tout de suite avec l'IndyCar qui sera du côté de Saint-Pétersbourg, Lilian.
Et yes, 27 engagés.
Oui, 27, hein, c'est un petit peu la norme en IndyCar hors Indy 500.
Oui, globalement, c'est ça. Puis 20e sur le circuit de Saint-Pit.
Oui, exactement.
Donc, voilà, c'est épreuve bien installée dans le calendrier maintenant.
Ah oui.
Toujours course toujours intéressante à regarder.
Bah, c'est la première en fait, donc.
En plus.
Il y a forcément un petit peu d'attente pour les gens qui ont été là depuis. Depuis 6 mois, la dernière course. Et il y a de l'envie. Enfin, je sais pas comment vous êtes, Lilian, Adrien, sur cette course, mais il y a un petit peu d'excitation, même si on sait qu'on a un règlement technique en carton pâte cette année, qui va changer en plein milieu de saison. Donc. Mais on a quand même envie d'y être. Oui, Adrien ?
Tout de suite, carton pâte.
Bah oui.
Ah, c'est parce que oui, l'hybride va arriver en cours de saison, c'est ça.
Bah oui. Oui, l'hybride arrive en plein milieu de saison et tout le monde n'a pas pu le tester.
Oui, ça, oui. On sait qu'il y aura potentiellement 4 écuries avantagées.
Ouais, et c'est pas comme si c'était les 4 plus grosses, tu vois. Ils auraient pu faire tester Delcoin, Juncos, et j'en passe, tu vois. Bah non, ils font tester Penske, Ganassi, Andretti, McLaren. Circuler, il n'y a rien à voir.
Ouais, de toute façon, honnêtement, est-ce que les petites équipes aujourd'hui, elles sont à armes égales avec un Penske, un Ganassi, j'ai pas l'impression quand même. Donc ils partent déjà avec une caravane plus longue et plus lourde, quoi. Donc voilà, ils auront peut-être 2 caravanes, mais...
Bah oui, mais là, ils auraient peut-être pu réduire à une demi-caravane.
Comment fait l'IndyCar pour développer un nouveau système sans le mettre dans une bagnole en fait? Et qui roule la bagnole? Faut un mec suffisamment rapide. Moi je veux bien la rouler, hein, mais alors déjà je pense que le cockpit va pas être assez large. Mais je suis pas sûr d'avoir les compétences et toutes les aptitudes pour exploiter ne serait-ce que 10% d'une IndyCar. Et des pilotes, il y en a plein, mais est-ce que leur retour sera jugé pertinent ou pas? J'en sais rien quoi.
Oui.
Donc, c'est sûr que oui, là, avec tous les pilotes d'expérience, ils sont dans les plus grosses écuries. Hein. Mais
mettre au point Wilson. Un véhicule particulier, c'est un métier. Et les gens qui conduisent déjà la voiture que vous avez pour aller chercher le pain quand ils la mettent au point, c'est des gens qui ne font que ça et c'est des spécialistes. Un exemple, par exemple, Laurent Urgon, que vous connaissez peut-être sur des courses d'Alpine à 110, etc. C'est un pilote de développement Renault Sport. Et c'est un mec qui fait des week-ends de course en GT4, FFSA France, etc. Donc son job, dans la vie de tous les jours, c'est de rouler des bagnoles de développement. Donc faire le développement d'une IndyCar, ça doit quand même demander quelques compétences. Et je sais pas s'il y a beaucoup de candidats. Donc le plus simple, c'est de jeter le produit dans un véhicule existant avec un mec qui fait ça toute la journée.
Oui, la question c'est... Ça, non mais en fait, c'est pas forcément. Je suis d'accord avec toi sur le fond. C'est plus le côté, on donne forcément le matériel aux écuries les plus riches. En fait, on agrandit le fossé qui existe déjà.
Je crois qu'on en a dit deux mots mardi, mais qui te dit que c'est pas les autres qui ont refusé en fait? On sait pas ça.
Ouais.
Est-ce qu'ils avaient les moyens de le tester aussi, financiers?
Exactement.
Ouais, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on leur a pas forcément proposé.
Peut-être, mais factuellement, t'en sais rien. T'as aucune preuve qui te dit que l'IndyCar a demandé à Juncos, par exemple, si il voulait développer le système hybride et faire rouler une voiture pendant je sais pas combien de temps. On n'en sait pas.
Oui, mais
On sait pas en fait.
y a aucune preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. En fait, l'argument, on peut le retourner dans n'importe quel sens.
Je suis
Mais
complètement
voilà.
d'accord.
Après.
Mais du coup, t'as aucune raison de charger Penske et Andretti, tout comme on n'a aucune raison de charger Juncos, ou
Ah,
c'est comme
mais
ça, on a quoi.
je les charge pas. Je dis juste que c'est dommage que le règlement évolue en
Je suis
cours de
d'accord.
saison et que ça n'ait été donné qu'à une partie du peloton.
D'accord, c'est dommage, et c'est un constat qu'on peut faire, c'est dommage, c'est qu'il y a peut-être une partie des équipes qui vont être avantagées. Et je sais pas si l'interview qu'on a fait hier a été diffusée,
Oui,
j'ai pas regardé.
si,
Ouais.
si.
Donc ceux qui ont peut-être écouté l'interview de Romain Grosjean, c'est vrai qu'il abondait dans ce sens-là, en se disant que c'est dommage. Oui, c'est un constat et c'est dommage. Maintenant, quelles sont les autres solutions? J'en sais rien. Si tout le monde n'en a pas les capacités, je sais pas, une petite écurie. Enfin, une petite écurie. S'il faut monter ce truc-là sur une voiture, qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de châssis, qu'entre deux courses, il faut monter, démonter le truc. La saison dernière. Et que l'hiver rouler, c'est pareil, rouler en hiver par des températures qui ne représentent pas les conditions réelles d'un championnat. Est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Quelle est la pertinence du truc? Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous, hein, le constat, je fais le même que vous, il est très probable que des écuries soient avantagées. Maintenant, quelles sont les autres solutions? Je pense qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'elles sont meilleures? Pas certain.
Effectivement. Donc, on sera du côté de Saint-Pete. Jusque-là, on est d'accord. 27 pilotes engagés. Et quand on regarde un petit peu dans le détail de cette liste d'inscrits, Lilian, on a deux, trois petites surprises.
Eh ben, oui, vas-y.
On n'a pas besoin d'aller très très loin. Dès le cinquième nom, en fait, on a une surprise avec un Britannique, Callum Ilott, qui remplace David Malukas blessé.
C'est ça, on en avait parlé très brièvement lors de la dernière émission de Splash and Go. Oui, voilà, il s'est blessé. Donc, je disais justement qu'il faisait partie de mes attentes pour cette saison 2024. Bah, je vais devoir encore attendre, puisqu'il est remplacé par Callum Ilott. Ouais.
Exactement. Et un nom aussi qu'on a bien connu du côté de la NASCAR et du côté de l'endurance dans la 51 de chez Delcoin, Colin Brown.
Ah, Colin Brown, ouais, qu'on a pas mal vu. Il était qui, Colin Brown? Il n'était pas chez Ganassi à l'époque?
Il était chez Rush.
Ah oui, dans la 60.
Et dans la 16.
J'aurais dit la 60, mais sur peut-être la 16.
Ah non, c'était Trevor Bayne la 16. Non, c'était ouais, c'est la 60.
Ah ouais, parce que Colin Brown, ouais, en Xfinity, ouais, ça remonte.
Ça remonte à quelques années, oui.
Ah bah déjà là, ouais, déjà la Rush en Xfinity, ça fait un moment qu'elle n'y est plus.
Ça remonte à la Nationwide.
Oui, en plus, c'est ça. En plus, c'était Nationwide. Oh là là.
Donc voilà. Après, peu de surprises, hein. Globalement, les transferts, on les avait annoncés. Donc.
Ça va être intéressant aussi. Entre ceux qui ont changé d'écurie et les petits nouveaux.
Oui. Les rookies, on en a parlé la semaine dernière, je crois,
Oui.
avec Arnaud. Donc voilà quoi, mais à suivre cette première course avec 27 pilotes, on l'a déjà dit. Pour ce qui est des horaires, Lilian, je sais que tu en es friand. Il y a un superbe article sur US Racing où on vous donne tout le détail des essais, des qualifs, de la course. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, il est fait pour ça, et je crois pouvoir dire qu'il est plutôt bien fait, Lilian.
C'est ça. J'aime bien cette dernière phrase. Il est clair, synthétique.
C'est ça, on peut juste préciser que la course elle fera 100 tours pour 180 miles. Voilà un petit peu, et dites-nous dans les commentaires, que ce soit sur Discord, sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez qu'on parle de la NXT, la série
Non.
de développement.
Pas sur Discord, dans les commentaires, là où vous écoutez le podcast, c'est mieux, si vous pouvez.
Oui, dans les
Sinon, le
coups.
podcast est sur YouTube, c'est mieux.
Ouais, le
Pas
podcast,
dans Discord.
Podcast, il est un peu partout, oui, comme tu veux, mais voilà, après...
Non. Parce que ça nous aide pour faire monter le podcast dans les recherches.
C'est vrai, ça aide aussi au référencement, mais dites-le nous, si vous voulez qu'on en parle, parce qu'on peut également en parler. Pour ce qui est du push-to-pass, Lilian, en IndyCar, 150 secondes au total pour la course, donc 2 minutes 30 pour ceux qui ne sont pas familiers avec les secondes, et un maximum de 15 secondes par activation.
Oui, ça n'a pas changé.
Ça, en fait, ça varie d'une piste à l'autre, mais d'une année à l'autre, sur une même piste, ça change très rarement. Et les pilotes, ils auront droit à 6 trains de pneus primaires et 4 trains de pneus alternatifs. Donc, primaire, ça doit être les noirs, et alternatif, ça doit être les rouges.
Oui, c'est ça.
Allez, donc, voilà un petit peu pour les grosses infos qu'on pouvait vous donner du côté de Saint-Pit. Je ne sais pas si, Lilian, tu veux ajouter quelque chose, ou Adrien, si tu as d'autres choses.
Non, pas spécialement. Pas spécialement.
Bah, rendez-vous sur Canal pour les fans de Grosjean.
C'est ça.
Oui, alors... La petite...
faut expliquer un peu, quand même.
Faut expliquer la private joke de Lilian, en fait. C'est que l'IndyCar a communiqué là, dans le courant de la semaine sur les diffuseurs du côté des mondiaux pour l'IndyCar. Et... a marqué Canal+ produit une couverture en France pour les fans de Romain Grosjean. Donc voilà la petite private joke de Lilian sur le sujet.
Ouais, Geoffroy nous a partagé ça, c'est quand même très drôle.
C'est sympa. Après c'est pareil, hein, ils disent que Gaora revient pour diffuser toutes les courses au Japon.
Pour les fans de Takuma Sato.
Et plus particulièrement pour Takuma Sato, essayer de décrocher son troisième Indy 500.
Après, c'est probablement pas complètement faux ce qu'il raconte, hein. C'est même très probablement vrai. Hein.
Mais oui, bien sûr. Mais.
Il y a une part. C'est. Enfin. Comment je vais le dire?
Il y a une part des abonnés Canal qui est due au fait que ce sont des fans de Romain Grosjean plus que des fans d'IndyCar. Et qui ont du coup suivi Romain Grosjean dans son aventure. C'est.
Oui, après, ils avaient peut-être déjà l'abonnement F1. Et il était déjà en F1, donc peut-être qu'ils le suivaient déjà là. Mais après, il y avait... Enfin, ça contribue à avoir un soutien français sur les différents sports mécaniques sur Canal+. Et si Canal+, n'a pas la NASCAR, il y a peut-être une raison.
Oui, peut-être qu'il faudrait que Romain Grosjean ait un NASCAR, c'est ça que tu es en train de dire
Pas spécialement, mais... Je crois que hier il nous a répondu que, alors peut-être, mais pas tout de suite, mais qu'il regardait les courses à la télé. Mais d'ailleurs, si vous avez la ref, hein, regardez les courses à la télé. Je pense que Lilian, tu l'as la ref quand même.
Oui, allons.
Ah, donc peut-être que s'il y avait un pilote français, Romain Grosjean ou pas, peut-être que il se poserait peut-être la question. Donc. C'est pas faux ce qu'ils ont dit. Mais c'est
non,
drôle. La manière dont c'est mis, c'est drôle.
C'est vrai que la façon dont c'est tourné. Et puis, enfin, je vous ai vraiment envoyé tout le communiqué. Hein. J'ai pas mis que la partie Canal+.
Oui.
Tu nous as encadré la partie à regardeur particulier.
c'est vrai que la manière dont c'est écrit au milieu, c'est drôle, mais c'est pas faux.
C'est ça. C'est pas totalement faux.
Et on aurait aimé qu'ils mettent Romain Grosjean et Simon Pagenaud.
Oui.
Bah, c'est vrai que du temps de Simon, ils ne l'ont jamais fait. Ou même de Sébastien.
Je pense pas qu'il ait la même aura, entre guillemets, que Romain Grosjean.
Oui, Romain Grosjean, il y a peut-être une partie liée au fait que ce soit...
son accident. Hein.
Qui est un ancien pilote de Formule 1.
Ah, bon,
Sébastien
fait la Formule 1,
aussi,
hein.
Mais oui.
Moins longtemps, mais... Et puis c'est moins fair repérer aussi, mais... Il a eu quand même 2-3 histoires un peu houleuses quand il était chez Toro Rosso, et... Mais il y est passé moins longtemps. Je pense qu'il est moins médiatique que Romain.
Peut-être, oui, et puis c'est pas la même époque, pas la même façon de jouer avec les réseaux sociaux, parce qu'il du temps de Sébastien Bourdais était pratiquement inexistant ou balbutiant.
On n'a jamais vu Sébastien Bourdais sur Netflix, quoi.
C'est pas faux. C'est pas faux.
Gunther Steiner chez Cadillac, quoi. Attention, quoi.
Messieurs, est-ce que vous avez un petit pronostic pour cette course de Saint-Pete? Je vous laisse réfléchir. Dans la catégorie, je fais un pronostic une fois dans la saison.
Ah,
Je commence très très bien. Ah, je commence très bien.
je sais plus qui j'avais
Ah
pronostiqué.
bah toi, t'as pronostiqué blanc, donc.
Ah, j'ai pas fait mes pronos encore.
T'as pas fait tes pronos, mais bah, j'ai fait mon prono et il est pourri parce que j'ai mis David Malukas.
Ah merde.
T'as mis
Donc,
qui en champion,
bah...
Geoffroy?
Pardon?
T'as mis qui en champion?
J'ai mis
À la
qui
fin
en
de la
champion?
saison?
Ah, en champion en IndyCar.
On le fait pas en temps normal, mais...
J'ai mis Joseph Palou.
Joseph Palou? Moi je
Ouais.
fais Geoffroy, moi je fais Geoffroy plus un comme pronostic.
Donc ça veut dire que tu fais Félix Rosenquist.
Ouais, je sais pas, tu mets. Tu t'es fait, tu.
Oui, bah
Celui que
si.
t'as mis aujourd'hui, tu le enfin, pour cette course, tu le mets sur la course
Mais en
d'après, et celui que
fait,
t'as mis champion.
tu me prends pour un débile parce que tu m'as fait exactement la même chose que pour l'IndyCar. J'ai bien compris, il faut juste décaler. Donc pour toi, c'est Félix Rosenquist à...
Peut-être, ouais, je sais pas, ouais.
Bah,
Si tu veux.
je te dis, c'est
Allez.
Félix Rosenquist.
Ouais, ok, bah vas-y. Moi,
Bah
ça me va
oui.
bien.
Bah tant mieux si ça te va.
Parce que j'ai pas le
Bah,
choix, vu que c'est
pour moi,
Geoffroy
ce
plus
sera
un,
Will
donc.
Power alors.
Pour toi, ce sera Will Power. Will Power. Bah, c'est noté. C'est noté, messieurs, pour ces petits pronostics. Allez, sans plus attendre, on va enchaîner avec l'endurance, Adrien, qui était du côté du Qatar pour le World Endurance Championship.
Ouais.
WEC, non, WEC, pas WEC.
Ouais. Ouais. Ça aurait pu être mon j'aime pas hier. Parce que. Bon, j'ai un peu galéré. Déjà, j'ai raté le début de la course. Pas bien. Parce que je pensais que c'était plus tard. Et puis, j'ai un pote qui m'a envoyé des messages sur Discord. Je regardais et je me suis dit, oh putain! Ils sont déjà partis les cons. Et comme j'avais pas mon abonnement, bah, j'ai dû regarder le début sur l'équipe.
Oui.
Ce qui était fort dommage. Et j'ai eu du mal à prendre mon abonnement WEC pour suivre la saison.
Ouais.
Leur site marchait bien, et au moment où j'ai pu avoir le truc pour regarder, je l'ai mis, impeccable, et au bout de 5 minutes, le flux a planté.
Il y a peut-être des gens qui regardent sur Automoto la chaîne qui vont se reconnaître dans tes propos.
Je me suis dit,
Un peu.
il commence fort encore cette année, parce que je crois que l'année dernière, la première course du championnat, je crois que ça avait pas marché non plus et on avait raté, je sais plus, les 10 premiers tours, je crois, ou un truc comme ça. Donc bon, après ça a marché à peu près correctement et il n'y a pas de pub et tout, donc c'est top.
Mais tu sais que sur Eurosport, tu l'as sans pub et en anglais si t'as besoin.
Ouais, mais non, parce que
Il aime
les
pas Euro.
24 heures du Mans, les 24 heures du Mans, moi j'aime bien avoir Bruno Van de Stick et tu l'as que sur le truc du WEC.
Ah oui, non mais ok, oui, forcément.
Je suis
Suis
un
Van de Stick.
peu intégriste sur les bords, désolé.
Ouais, mais on comprend, c'est vrai que Alan McNish et compagnie, c'est pas top, quoi.
Ils y connaissent rien, quoi.
Ouais. Mais
Ouais, non,
j'avoue,
mais.
Bruno Van de Stick,
Moi, j'aime bien.
il envoie du bois pendant 24 heures, donc c'est bien. Enfin, pas pendant 24 heures, je crois qu'il dort un peu, mais...
Tout ça, ça nous parle pas de la course
Du Qatar, de
du
Losail.
Qatar. Mais ouais, c'est une course. Je sais pas s'il faut dire drôle, moi j'en attendais pas grand chose étant donné que
Donc t'as pas
ben
été déçu si tu m'attendais pas grand-chose.
non j'ai pas été déçu, non j'ai pas été déçu, je pensais pas voir quand même les LMDH autant devant puisque Toyota avait quand même au moins trois caravanes dans la voiture. Et donc c'était compliqué, parce que je crois qu'ils étaient au poids max, qu'ils étaient à 1089 ou un truc comme ça. Quand la Peugeot, elle, avait quasiment, ils avaient enlevé le siège du pilote presque pour qu'elle soit plus légère, et ils lui avaient mis tous les chevaux qu'elle pouvait avoir. Donc bon, il y avait quand même une espèce d'intention de faire briller la Peugeot pour sa dernière course dans cette configuration-là, mais du coup je comprends pas trop l'intérêt de faire gagner une bagnole qui disparaît la course d'après en fait.
Spoiler, elle a pas
Puis elle a.
gagné.
Bah, elle est tombée en panne d'essence.
Ouais, elle est tombée, mais enfin, tu vois, je comprends pas trop la philosophie de se dire bon, allez, c'est la dernière course avec cette bagnole, on va vous faire gagner. Et puis la course d'après, vous allez arriver avec une nouvelle voiture. Qui dit nouvelle voiture dit dos base 50 kg. Et la caisse, ça va être un tracteur, parce qu'ils vont la charger à mort comme ils la connaissent pas. Et la bagnole, elle va être complètement arrêtée. On va se dire, mais pourquoi ils ont changé les cons? Ils ont gagné la semaine dernière et là ils perdent.
Mais ils ont fait des émules quand même, Peugeot.
Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Emule, mais.
Pardon, mais Ferrari a aussi testé le concept sans aileron arrière.
Ah oui, ça c'était le DRS Fassion Mec, ça. Ouais, non, bah ça c'est pas de bol. Moi quand j'ai vu l'aileron arrière par terre, je me suis dit s'ils arrivent à l'accrocher, c'est pas mal quand même. Parce que quand tu sais comment c'est accroché, t'es pas juste un clip qui a sauté quoi. Enfin, c'est. Moi j'avais peur que ça ait endommagé le bah, tous
Le
les
fond
points de
plat,
fixation, les guides et tout. Bon, a priori, non. Mais ils ont quand même mis un peu de temps avant de faire repartir l'auto. C'était pas juste je l'enlève, je le remets et vas-y dans Léon. Mais ouais, c'était un peu. Ouais, il n'y a pas eu d'accident, c'est bien. On a vu Peugeot qui a fait un tweet pour récupérer la pièce. Si Ferrari en voulait pas, c'était rigolo. Mais pareil, Ferrari, ils ont fait des conneries en course. Et au final, cette course, elle était bizarre. Pour moi, elle représente en rien ce qui va se passer sur le reste de la saison. Il y avait des nouvelles voitures, pareil, qui étaient plus ou moins lestées parce que nouvelles voitures. La nouvelle Peugeot va arriver la prochaine fois, mais on sait pas trop comment, enfin, quelle sauce ça va être mangée. Là, ce qu'on voit, c'est que la Toyota, elle était complètement arrêtée. Ils étaient en galère complète avec les pneus. Ils avaient pas de perfo et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la prochaine? Moi, j'ai. Ce qui est dommage avec ce championnat, c'est que j'ai l'impression que tant que le monde n'est pas passé, tu sais jamais trop sur quel pied danser, en fait. Parce que personne n'a envie de se prendre un coup de rabot avec la BOP avant les 24 heures du Mans. Donc tu sais pas si tout le monde joue placé ou si tout le monde en garde un peu sous le coude ou. C'était marrant, il y avait du spectacle, mais je sais pas quoi en penser en fait. Donc à part voir que l'Isotta, ben, ça aurait été mieux qu'elle soit pas là. Moi j'aurais préféré voir la Proton. Bon, la Lamborghini, a priori, elle a fini, ce qui est déjà bien. Mais d'un point de vue perfo, de ce que disait Romain, ils ont trouvé 2-3 petits problèmes, etc. Donc, bon, bah, c'est une nouvelle voiture. Elle a fini, c'est bien. Après, il faudra voir sur d'autres courses ce que ça va donner. Sebring sera un très bon étalon. Si elle finit, ça sera encore un très bon signe. Si elle finit pas, bah, c'est moche, mais peut-être qu'il y aura encore du boulot. Et après, on verra la perfo qu'elle a, mais. Bon, Lamborghini et Alpine, il n'y a pas trop. Enfin, pour l'instant, il faut qu'ils finissent et qu'ils engrangent des bornes, même s'ils ont déjà fait un paquet. Mais faut qu'ils roulent. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais Alpine, ils avaient une voiture qui était plutôt bien placée, avec deux stratégies complètement différentes pour essayer de comprendre un peu comment les pneus s'usaient, la conso, etc., etc. Donc, l'exploitation était plutôt pas mal. Mais après, c'est Cadillac qui a fait forte impression, et surtout Porsche, quoi. Porsche, avec sa nouvelle liaison au sol, là, qui sort un peu de nulle part, et puis avec le nouvel hybride, là, qui explose tout, quoi. C'est. Moi, j'ai quand même l'impression que Porsche, cette année.
Et avec une BOP favorable?
Ben.
Est-ce que, comme tu dis, il faut peut-être pas trop se montrer pour pas prendre un coup de rabot au moins?
Ah! D'un point de vue. Spectateur, moi je dirais non. Ben, c'est du sport. Sport, c'est de la compétition. La compétition, c'est la course, quoi. Mais malheureusement, je pense qu'ils auraient intérêt, ouais, peut-être à lever le pied. Parce que s'ils gagnent la prochaine à Sebring, enfin, s'ils gagnent partout, sur toutes les courses, en IMSA et en WEC, partout où ils vont, ben, ça va pas faire un pli. Au Mans, ils vont se prendre un coup de rabot, ils vont pas le voir arriver, quoi.
Oui, là
Donc,
c'est...
je pense que leur objectif c'est de gagner Le Mans, qu'ils n'ont pas réussi à gagner l'année dernière parce que la caisse elle était pas forcément au rendez-vous. Mais moi je suis curieux, enfin limite sur la prochaine course, je suis curieux de voir comment Porsche va rouler. Après ils ont 8 voitures, c'est compliqué de planquer 8 voitures aussi, 8 ou 7 je sais plus combien ils ont mis. Enfin, ils en ont.
Ah, j'adore.
C'est pas une Porsche Carrera Cup quoi, mais presque, tu vois donc. Tu peux pas non plus te planquer avec 8 voitures. Quand t'en as que 2, un peu caché, ça peut se faire. Mais quand t'as 4 écuries, 7 voitures, 12 pilotes, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Donc, je pense que s'il lève le pied, ça va se voir en fait. Et honnêtement, j'espère que qu'ils vont pas se planquer. J'espère qu'ils vont tout gagner. Et que malgré le coup de rabot, s'ils en prennent un, eh ben qu'ils soient toujours là en fait. Parce que si se planquent et qu'ils viennent à gagner au Mans,
Ça veut dire qu'ils sont très très forts, ouais.
bah. Bah. Ouais, mais ça veut. Enfin, t'auras toujours la question de la BOP en fait. Pour moi, la meilleure manière de répondre et de faire taire tout ça,
Oui, c'est
ça serait de tout gagner, de prendre un coup de rabot et de continuer à gagner en fait.
Ouais, en fait, de prouver que la BOP, c'est de la merde. Si je traduis
Pas
tes
forcément.
propos.
Pas forcément. C'est pas forcément le but, c'est pas de prouver que la BOP c'est la merde, c'est juste de prouver que t'es le meilleur en fait. Qu'on a beau faire ce qu'ils veulent, c'est qu'ils arrivent pas à te ralentir suffisamment en fait. C'est ça en fait. C'est que t'es le meilleur. Point.
Oui, aussi.
Et peu importe, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent, celui qui gagne, c'est toi. Donc ça serait la manière la plus fair-play, la plus honorable, la plus sportive de s'imposer quoi. Mais après je sais pas comment ils vont réagir, je sais pas comment la voiture se comporte, etc. Mais enfin, moi ce que je trouve dommage en fait, c'est que on parle plus de la BOP qu'autre chose quoi. Et quelque part, ça fausse un peu le. Enfin, ces compétitions qui sont un peu nivelées par des équivalences techniques, ça fausse un peu la course.
Oui.
C'est dommage. Parce qu'il y a toujours cette notion du il gagne, ouais mais regarde l'autre derrière il a 10 chevaux de moins en fait. Peu importe s'il a 10 ou 100 chevaux de moins en fait. Tu vas forcément regarder ce truc-là pour te dire ouais mais il a gagné parce que.
Mais la bob, c'est quand même l'histoire de l'endurance, quoi. Enfin, ça fait des années que ça existe. Pour créer artificiellement du spectacle à l'époque, parce qu'on voulait que la Penske en P2 gagne face à, ou en tout cas rivalise face à Audi en P1 en ALMS.
Bah alors moi j'ai pas de souvenirs aussi lointains, mais moi les premiers souvenirs de Bob qui me viennent comme ça, c'est l'équivalence diesel-essence à l'époque Peugeot Audi.
Ouais.
Il y avait les constructeurs contre les privés, Pescarolo qui râlait, etc. etc. parce que ça pouvait pas gagner. Donc moi c'est les premiers souvenirs que j'en ai. Je sais pas si dans les années précédentes il y avait aussi cette philosophie, mais je trouve ça un peu dommage. Et sur le championnat, il y a tellement de diversité que ça me semble quand même vachement compliqué pour. Enfin, il n'y a pas deux unités de puissance qui sont pareilles. Il n'y a pas deux systèmes hybrides pareils. Il y a. Ne serait-ce que dans les cylindrés ou les trucs comme ça, tu vois, tu prends le championnat de Formule 1, la cylindrée du moteur, elle est imposée. Il y a quand même plus de choses qui sont standardisées, entre guillemets. Là, t'as Porsche qui a un V8, t'en as un autre qui a un 4 cylindres, t'en as un qui a un Atmo, tous les autres ils ont un turbo. Alors, c'est sympa, parce que du coup, t'as beaucoup de diversité. Mais à équilibrer, enfin, c'est juste l'enfer en fait.
Parce que le règlement est trop permissif.
Bah, j'ai l'impression qu'ils ont. Ouais, ils ont essayé de contenter un peu tout le monde, et tu te retrouves avec un truc qui est hyper ouvert. Et comme tu peux pas t'amuser à réhomologuer des caisses tous les 4 matins parce que déjà un ça coûte à bras et deux c'est limité, bah t'es un peu coincé dans la direction que t'as pris. Donc j'apprécie cet aspect diversité, etc. Mais le spectacle à tout prix, c'est dommage en fait. Qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait pas cette BOP? Probablement que t'as un ou deux constructeurs qui domineraient outrageusement, mais que feraient les autres? Ils partiraient, ils essaieraient de revenir, je sais pas. Enfin bon, là on part dans des débats, on s'éloigne de la course, mais au final la course de cette semaine, enfin de cette semaine de ce week-end, moi j'ai bien aimé. Les GT3, j'avoue que j'ai pas trop suivi, on les voyait pas beaucoup, je trouve. À part quand les mecs en GTP, enfin en LMDH et en LMH, ils se jetaient à cordes pour passer. Mais les GT3, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Mais bon, c'est. Je suis pas déçu, mais.
T'es pas emballé.
Mais ouais, on va voir la suivante. Je pense que moi j'attends Spa en fait.
Spa qui est la dernière répétition avant Le Mans.
Ouais, parce que là va y avoir Imola au mois d'avril. Imola, ça n'a rien à voir, c'est un tourniquet.
Oui.
Le trafic, on va rigoler 2 minutes. Quand les 19 protos ils vont arriver au milieu des GT3, ça va être drôle. Moi j'attends Spa. Et je pense que ça sera compliqué de savoir réellement qui fait quoi. Enfin, comment se placent les voitures. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Porsche a corrigé ses problèmes. Que ça marche quand même très fort. Est-ce qu'ils vont être un peu handicapés ou pas? Je sais pas. Moi,
À
j'aurais envie de
confirmer, j'ai
dire.
envie de dire.
Comment?
À confirmer, moi, j'ai envie de dire.
Ben, je sais pas si j'ai envie de les voir pénalisés ou pas en fait. Moi, au début, je trouvais ça bien cet aspect de BOP, etc. Mais en fait, t'as pour les gens qui travaillent sur les bagnoles, je me dis ça doit être une frustration monstrueuse de voir que t'as corrigé tes problèmes. Ils avaient une caisse qui marchait pas l'année dernière. Là, ils ont corrigé les trucs. Ils voyaient qu'ils vont faire un truc qui marche. Et imagine, tu fais un avion de chasse et le truc on te le saborde. Parce que les autres, ils ont moins bien travaillé que toi. C'est moche quand même.
Ah c'est oui, c'est
C'est possible.
contraire au sport, enfin c'est contraire à la logique de rechercher la performance et de vouloir être le meilleur.
Donc bon. Après, en GT3, c'est pareil. Hein. Il y a une BOP, ça fait moins débat parce que c'est peut-être un petit peu plus étalonné depuis plus longtemps. Mais au tout début, quand SRO a fait sa BOP en GT3, c'était pareil. Hein. C'était oui, mais si, oui, mais machin, 5 chevaux de plus, 30 chevaux de moins. Aujourd'hui, un peu moins, mais quand même. Donc, bon. Enfin, bon, moi j'ai bien aimé, j'attends Imola. Mais je pense qu'on ne saura pas en tirer grand-chose.
Ok, donc prochaine étape, Imola au mois d'avril. Entre-temps, on aura eu les 12 heures de Sebring dans 15 jours, 10 jours. La semaine prochaine, en fait.
C'est pas. Oui, je sais plus si c'est ce week-end ou week-end prochain, je crois, mais.
C'est dans 10 jours, c'est le week-end du. Je sais plus combien là, 16-17.
Ouais, on verra comment roulent les voitures qui sont dans les deux championnats, comment elles roulent aux États-Unis. Mais si Porsche gagne à Sebring, déjà, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. Et l'année dernière, c'est à Sebring où ça a mal fini dans les dernières heures de course, là. Ils se sont envoyés dans les pneus à 3, là.
Il y avait la Cadillac.
Il y avait une Cadillac et deux
Ouais.
Porsche, là, dans le virage 3, où
Oui,
ils
ça
ont
avait
tous
tapé
fini dans les
fort,
pneus,
oui.
là. Ouais. Donc, ils étaient pas mal l'année dernière déjà à Sebring Porsche, donc on verra. J'espère qu'il y aura match en fait entre les différentes marques, ça serait même bien.
Oui, c'est clair.
Mais c'est pareil, il y aura toujours cette histoire de BOP. Mais bon, on verra déjà Sebring. Voyons Sebring, on verra plus tard.
Effectivement. D'autres choses à dire sur cette course du Qatar?
Pas que vous m'avez laissé parler suffisamment, j'ai l'impression déjà.
Il a fait son quart d'heure d'endurance.
C'est pas faux, c'est pas
Il n'y a
faux.
pas de quart d'heure jeu vidéo aujourd'hui.
Ah,
C'est ça,
il s'est rattrapé
il a
quoi.
compensé.
Double dose.
Bon bah allez, je m'en vais. À plus!
Allez, salut. Donc du coup, si on passe à la NASCAR, messieurs, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé du côté de Las Vegas en Xfinity. Et en truck, alors on peut peut-être commencer chronologiquement par la truck, Lilian.
Bah oui, bah quand même victoire un peu, on va quand même dire historique. Victoire de Raja Carus, on va essayer de le prononcer correctement.
Oui. Ouais. Oh.
Donc du coup, bah première victoire en truck. Troisième Afro-Américain à remporter une course NASCAR dans les séries nationales. Et puis bah troisième victoire consécutive avec trois pilotes différents d'ailleurs.
Exactement.
Ça, c'est aussi à souligner. Donc, le premier, c'était Nick Sanchez à Raja Carus.
Exactement. Mais c'est marrant quand même, comme on arrive à faire un événement de quelque chose qui ne devrait pas en être un. Je veux dire, un sportif afro-américain, quel qu'il soit, qui gagne, ça devrait être la normalité. Enfin, c'est
Oui, mais
juste.
on est aux États-Unis.
Ouais, c'est surtout.
C'est.
Tu veux que je te fasse la liste de sportifs afro-américains qui ont gagné dans d'autres sports que la NASCAR?
Oui, mais c'est voilà, c'est vu les origines de la et les états où les épreuves se déroulent majoritairement.
Micro et coupe, Lilian.
Ouais, tu coupes sévère, Lilian. Tu es en train de nous expliquer que
Si je
c'était.
coupe sévère. Ou...
Ouais, c'est ça. Donc, Raja Carlos qui s'impose. Après avoir fait la pole
En plus.
quelques heures plus tôt, mais Raja Carlos qui n'est pas leader du championnat pour l'instant. C'est pareil, ça pourrait être la prochaine étape. Il est placé, il est quatrième à 10 points. Alors ça ne sera pas à Phoenix puisque la truck ne va pas à Phoenix. Mais ça pourrait être le prochain gros événement dans le monde de la NASCAR.
Moi, j'aimerais... J'aurais envie d'être un peu taquin et provocateur, même si je connais la réponse parce que je sais que c'est pas le cas, mais il a sorti personne ce coup-ci.
Non.
Non, je sais qu'il a sorti personne, mais tu vois, autant bah là il gagne à la régulière, machin. Ouais, moi je trouve c'est bien, mais le move qu'il a fait la semaine dernière,
Il y a 2 semaines.
il y a 2 semaines, ouais, c'est pas.
Oui, c'est pas beau, oui.
Bon,
Pas
après,
terrible.
c'est pas le premier à le faire, hein.
C'est pas le premier, c'est pas le dernier, on est
Malheureusement,
d'accord.
voilà, c'est ça.
Mais en plus, d'autant plus qu'il avait l'air un peu mal à l'aise après pendant les interviews. Moi, c'est ça qui m'avait attiré l'œil surtout. Il n'y aurait pas eu ça, je pense que je serais passé. Mais de voir après, voilà, ce qu'il vient discuter avec lui, qu'il le retourne face à la caméra, machin et tout, je me suis dit, bon, c'est moche, quoi. Mais bon, là, c'est bien, au moins il gagne à la régulière, machin, c'est bien.
En plus, c'est vrai que je suis quand même étonné parce que tu dis qu'il n'est pas leader du championnat, alors qu'il fait quand même 3 top 10, quoi.
Ben oui, mais Taylor Ancrum est devant. Il y a eu des victoires de segment pour Ancrum. Il y a eu des victoires de segment pour Ty Majeski. Donc.
Que je regarde ses résultats, ouais, il fait 8e à Atlanta. C'est 5e, je crois. Non, il fait 3e à Daytona. Et donc, il gagne à Las Vegas. Mais malgré ça. Il n'est pas devant.
Oui, mais. En début de saison, les points de bonus acquis sur les segments peuvent vraiment alors fausser la donne, non, mais enfin voilà, changer un petit peu la physionomie et ne pas forcément refléter les forces en présence en fin de course. Parce que tu peux facilement prendre 15-20 points. Et 15-20 points, ben, ça peut te permettre de terminer 20e et de marquer autant de points que le vainqueur. S'il n'a pas pris de points de bonus.
C'est ça. Mais bon, à poursuivre pour Raja, et puis bon, bah, chose que j'avais jamais creusé sur sa biographie, et oui, il vient aussi du milieu d'un certain William Byron,
Oui.
qui s'est fait repérer via vieille racine, comme Byron également.
Exactement.
Donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, de finir chez Hendrick et de pourquoi pas être prétendant au titre en Cup dans quelques saisons.
C'est ça, à la place d'Alex Bowman? C'est ça que t'allais dire?
Bah, en tout cas, il a déjà le soutien de Hendrick Carson.
Ouais.
C'est un début.
Oui, c'est un très bon début. Donc.
Ouais, enfin. Il y en a déjà une voiture HendrickCars.com en Cup 1, puis pour aller le déloger.
Bah,
Ah,
mais.
c'est pas le premier que j'aurais délogé chez Hendrick, moi.
Non, mais. Non, non, bah, Geoffroy a déjà cité le personne en question.
Ah ouais.
Et.
Mais bon, après, faut que les sponsors suivent, etc., etc., mais.
Oui, mais.
Je pense pas que ça devrait être un problème.
Non, je pense pas que ce soit un problème pour HendrickCars.com de sponsoriser deux voitures en cup. Voilà, je dis
Ils ont
ça.
sponsorisé déjà une en truck, une en Xfinity à temps partiel et une quasi play en cup.
Ouais, enfin, ça serait quand même mieux si on pouvait avoir un autre sponsor.
Pas. Regarde.
Ça serait
Non,
quand
non,
même mieux.
mais je pense que oui, il n'aura aucun problème. Quand on voit Bubba Wallace, est-ce qu'il est capable de driver comme sponsor, je pense que Raja Kalous, s'il arrive en Cup, ça va être la même chose.
Exactement. Alors, le top 5 de la course de truck, donc Raja Carlos qui s'impose devant Tyler Ancrum, qui est leader du championnat, j'ai dit, c'est bien ça. Corey Heim est troisième, Tyler Gray quatrième et Christopher Bell a pris la cinquième place. On passe à la Xfinity, messieurs, avec et ben, un petit coup de tonnerre, puisque...
Presque.
Bah, Oui, c'est un petit coup de tonnerre dans cette saison, puisque ça a été la première fois, et à ce jour seule fois, qu'une voiture Chevrolet ne s'impose pas dans les séries nationales. Il a fallu attendre la huitième course de la saison pour voir autre chose qu'une Chevrolet s'imposer, et en l'occurrence une Toyota avec John Hunter Nemechek au volant de la numéro 20 de la Jogi Racing, Lilian.
Ouais, c'est ça. Et qui plus est, dans une série où les choses sont quand même clairement très très majoritaires plutôt.
Oui, mais bon.
Mais oui, bon après, Nemechek, il mène.
Ah, t'as recoupé,
Il
Lilian. Ouais, il a mené 99 des 200 tours.
mène voilà, quasiment moitié de la course, largement au-dessus, quoi.
Clairement. Il s'impose devant Cole Custer, Chandler Smith, Austin Hill et Riley Herbst pour le top 5. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette course. Shane Van Gisbergen qui fait un moteur.
Oui, et puis petite touche féminine, et Lady Gan, 15e.
Ouais, à un
Quand
tour.
même. Ouais, elle finit un tour.
Ah oui, elle termine à un tour, oui, je te confirme. Oui.
Oui, de deuxième à un tour, mais bon, voilà. C'est premier bon résultat cette
Alors,
saison.
c'est peut-être un bon résultat pour elle, mais nous, c'est un mauvais point au niveau de l'écoute pour toi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Lilian, mais tu coupes de manière régulière. Je ne sais pas si tu as le même problème, Adrien,
Ah ouais.
mais on est d'accord.
Désolé.
Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Donc, désolé si ça coupe pour vous sur le podcast. On n'y peut rien. C'est de la faute de Lilian, il y a des interférences dans le nord. Donc voilà, je suis en train de. Oui,
J'ai pas grand-chose à rajouter parce que la course, je l'ai pas, enfin, je l'ai entendue plus que vue et du coup, comme je fais autre chose en même temps, bon, suivant.
On peut parler de Sam Mayer aussi, un hein, très compliqué.
Premier, en partant de la fin.
C'est ça, début de saison très très compliqué.
Je suis en train de regarder au niveau du classement général. Donc Austin Hill est toujours leader. Devant Chandler Smith, Riley Herbst. Tu disais qui? Sam Mayer? Et 24e. Oh. Oh, ça fait mal.
Ouais, mal, très mal.
Je suis en train de regarder. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7 derrière lui qui ont fait tous les départs. Seulement. Enfin, oui, il y en a 7. Il y en a un qui ne marque pas de points parce qu'il est inéligible. Donc, ça compte pas vraiment.
Puis quand tu
Mais.
roules chez Senior Motorsports,
Ah,
les
bah.
attentes sont plus élevées que ça, largement.
Donc c'est ça, mais là c'est un début de saison très très compliqué pour Sam Mayer. On est presque sur de la victoire obligatoire pour atteindre les playoffs, même si ça peut encore remonter. Ça pourrait très vite se tendre pour Sam Mayer. Donc voilà. On a eu quelques pénalités, messieurs, du côté de Las Vegas en NASCAR. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a en tout cas eu Chris Buescher qui a été rappelé par la patrouille à la suite de comment? La perte de sa roue pendant la course.
Oui, comme l'écrou était mal serré.
C'est ça. Et
C'était
Du
moche.
coup, ça rentre. Oui, c'est un point du
Mais bon.
règlement, donc pénalité.
C'était prévisible, quoi.
Pourquoi c'était prévisible? De quoi? La pénalité ou le fait que l'écrou soit mal serré?
Oui.
Bah, la
Bah non,
pénalité, la
la
pénalité.
pénalité.
Ah
Les roues qui se barrent, ils sont alignés à chaque fois. Donc la prochaine fois, ils prendront le temps de vérifier que c'est serré. Hein.
Ça avait déjà été dit lors du direct, ouais, par les commentateurs de la Fox.
Ouais, donc. Après, bon, je sais que. Sur le Discord, Luke Duke est un aficionados des petites loupiottes, etc. pour que ça. Pour rajouter des contrôles électroniques automatiques pour que ça sert plus, mais en F1, il y a aussi des roues mal serrées et ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier.
Ça paraît quand même moins fréquent en Formule 1.
Ouais, mais ils utilisent ça depuis des plombes aussi, hein.
Depuis des plombes, ils sont quand même à combien? 4 par roue?
Ouais, mais ils ont qu'à aller moins vite en fait.
Ah ben oui, mais après ça va à l'encontre du but d'être le premier, d'être le plus rapide.
Bah oui, mais non, en fait.
Oui, je vois, tu veux en venir. Si tu vas moins vite, mais que tu sers toutes tes roues, tu gagnes du temps par la suite. Mais.
Après, pour finir premier, il faut déjà finir, hein. Après, s'ils veulent partir derrière tout le monde, c'est aussi une stratégie, mais c'est plus compliqué de finir premier.
Mais, enfin, ouais, je sais pas si ça vous a marqué, là, sur certains arrêts au stand, sur les dernières courses en NASCAR, on voit clairement des pilotes qui repartent alors que les mécanos sont toujours en train de visser. Donc tu peux mettre tous les contrôles que tu veux. Si ça doit mal se passer, ça se passera mal.
Ben oui,
Et.
mais la faute à qui? Il y a un mec devant la bagnole qui dit au gars de repartir. Si tant que le mec il voit pas les quatre pistolets en l'air, il dit pas au gars de repartir, eh ben je te garantis qu'il partira pas quand les roues seront pas vissées.
Non, parce que le signal, c'est pas le chef mécano qui dit go pour les pilotes. Le signal, c'est le jackman qui met la voiture,
Peu
qui baisse
importe.
la voiture. Et du
Peu un
coup.
peu. Peu importe, si le mec il veut pas prendre une demi-seconde avant de baisser le jack pour s'assurer que les pistolets sont en l'air ou je ne sais quoi, c'est son problème en fait.
C'est le problème de l'équipe, mais.
Enfin, c'est le problème de l'équipe, mais. Enfin, moi je trouve ça dommage à chaque fois de faire porter la responsabilité sur le matériel, alors que le matériel c'est le même pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent pas. Je suis désolé en fait.
C'est
C'est
aussi le
le bonhomme.
crew chief qui dit go go go.
Oui, il répète, mais en général pour le pilote, le signal c'est quand la voiture redescend. Parce que le coup du comment de descente du jack est suffisamment violent. Donc les pilotes ils savent quand la voiture est touche terre, faut qu'ils mettent godasse.
À
Et.
toutes les courses, t'aurais la moitié des roues qui se barrent, à tous les ravitaillements, je te dirais, oh. Là, qu'il y ait autant d'erreurs, c'est pas possible. Le système est merdique en fait. Mais là, il y a une roue, parfois sur une course, qui se barre. Des fois, il n'y a rien pendant 10 courses, il y a deux roues sur la même course. C'est moche.
Oui.
Mais ça veut quand même dire que la probabilité que tu fasses une connerie, elle est quand même relativement faible. Et que quand tu l'as fait, c'est que tu t'es foiré.
Ah oui, mais
Après, les.
c'est une erreur humaine.
Les pistes sont quand même relativement sécurisées. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas, parce que on a vu des roues qui volaient au-dessus des tribunes l'année dernière, et parfois ça fait peur.
Ah oui.
Mais tu ne peux pas tout le temps faire reposer le problème sur le matériel, alors qu'ils ont tous le même, et que t'as beau avoir le meilleur des matériels, et ben en Formule 1, t'as aussi des mecs qui savent pas visser les roues ou qui font les erreurs. Et puis t'as les roues qui se barrent. L'année dernière, en F2, t'as même une bagnole, je sais plus, c'était Vesti, je crois. Il a les deux roues du train arrière qui se barrent en même temps. La caisse, elle finit posée sur le fond plat, quoi. Comment t'expliques ça?
Oui, enfin, après là, tu prêches un convaincu. Enfin, pour moi, c'est une erreur de l'équipe plus qu'autre chose. Et tu peux mettre tous les contrôles que tu veux. À partir du moment où les mecs ils commencent à réaccélérer alors que la caisse elle est en l'air ou que les mécanos n'ont pas fini de visser,
Oui, donc
il continuera d'avoir des problèmes.
la sécurité n'a pas de prix, oui, c'est vrai. Que quand on peut sécuriser le truc, c'est bien. Maintenant, il y a sécurité et sécurité. On en discutait avec Arnaud en off hier sur le Halo, etc., etc. Où c'est vrai que c'est bien de faire évoluer les systèmes, etc. Mais si on veut que les mecs ils se blessent pas, on fait une course de tank en fait. Je te garantis que quand il y a une roue qui va voler. Les mecs, dans les tanks, ils auront rien.
Oui, c'est sûr.
Mais il y a plus d'intérêt en fait après. C'est donc la
Non.
Formule 1 a mis des règles pour, je crois, essayer de ralentir les arrêts ravitaillement. Bon bah, s'ils veulent vraiment que les mecs ils prennent le temps de se contrôler les roues, et ben t'as qu'à distribuer des pénalités qui sont hyper sévères en fait.
Ouais.
Un truc où le mec, s'il se fait gauler une fois, il sait que. Je vais exagérer un peu, mais il sait que son championnat est mort, en fait. Je te garantis que les mecs, ils vont vérifier que les roues, elles sont serrées.
C'est sûr.
Alors, ils iront jamais jusque-là.
Non, mais. Enfin, il faut. Si tu veux t'assurer de quelque chose, il faut que le risque que tu prennes soit largement inférieur à la pénalité que tu ramasses en fait. Si tu te dis je me fais gauler ou je me rate Mais si je me rate, c'est pas très grave, le risque, tu vas le prendre. Si quand tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais là, si je me foire quand même, mes 3 prochaines courses, c'est mort, ma saison, c'est mort, ouais, je vais quand même faire attention.
J'adore comment tu présentes ça.
Bah, oui, mais. Enfin, je veux dire, si tu sais que à chaque fois que tu passes devant un radar, quand tu conduis ta voiture, tu sais qu'il y a une chance sur 1000 pour que tu te fasses attraper et que le PV il arrive peut-être encore une fois sur 1000 chez toi. Et devant tous les radars, tu vas passer à bloc, hein. Tu fais quand même beaucoup plus gaffe que si tu sais que tu vas te faire attraper quasiment à 99% des cas, quoi. Et que la probabilité que tu reçoives pas le courrier, c'est qu'il y a une bagnole à côté, que t'aies une mouette qui traverse devant le machin. C'est pareil en fait.
C'est pas faux.
Et bah là, voilà, le mec qui l'a joué, il a perdu.
Effectivement, donc du coup, conséquence de tout ça, il y a deux membres de l'équipe, donc Nicolas Patterson et Jakob Proll, qui sont suspendus pour les deux prochaines courses. Donc Phoenix cette semaine et la suivante, Texas, Léon. J'ai un trou de mémoire sur le calendrier.
Ont-ils un quota? Je ne sais plus.
Ouais, ça va être Austin.
Après, est-ce que sur une grosse équipe, ce genre de sanction est un problème? Peut-être beaucoup moins que dans une petite structure.
Non, Phoenix et Bristol, pardon. Ils reviendront à Austin. Je sais
Je
pas.
sais pas, l'objectif c'est pas de répondre. Mais tu vois, ça peut être une des questions qu'on peut se poser. Typiquement, un truc comme ça chez Hendrick, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça l'est chez une toute petite équipe qui a qu'une voiture? Probablement que ça n'a pas du tout le même impact.
Oui, mais souvent dans les petites structures, ce sont des mécaniciens des grosses structures qui sont prêtés pour continuer de rester en activité.
Oui, mais.
Enfin, c'est les écrous à l'ancienne dans les autres, dans
Immédiat.
les divisions inférieures.
Aussi.
Oui, mais là, je te parle dans la même division. Si c'est du personnel qui leur est prêté, ça veut dire qu'ils le maîtrisent pas. Donc si le mec qu'on leur prête, il est pénalisé, ça veut dire que de base, le mec, ils l'ont pas, en fait.
C'est pas forcément qu'il ne le maîtrise pas, c'est qu'il est peut-être. Tu prends le cas de la Hendrick, t'as quatre jeux de mécano, et le cinquième jeu, bah, les mecs, ils sont un tout petit peu moins bons. Ils sont pas suffisamment bons pour être sur les quatre majeurs, donc ils sont prêtés à la Spire, ou je ne sais où, chez qui a besoin, moyennant un peu d'argent, quoi.
Oui, mais la
Et.
Spire, si elle a ces mécanos-là, ça veut dire qu'elle n'en a pas d'autres. Ou
Ça
qu'elle en a
veut.
peut-être des encore moins bons.
Oui, mais que en fait, où ils font des économies de personnel parce qu'ils ne louent des mécaniciens que pour l'épreuve. D'accord? Et donc du coup, ça leur permet de gagner de l'argent, enfin de dépenser de l'argent sur d'autres postes. Et pour ces mécaniciens-là, bah, ils sont en compétition, donc ils sont comment? Ils font pas que de l'entraînement, quoi.
Entraînement grandeur nature, ouais.
Ils donnent tout et ils sont. Demain, on les appelle pour remplacer chez Byron ou chez Larson. Bah, les mecs, ils peuvent y aller parce que ils vont au feu toutes les semaines.
Oui, mais du coup, c'est probablement moins grave pour la Hendrick qui est capable d'aller reprendre un mec qu'elle prête à je ne sais qui pour ponctuellement combler une pénalité, alors qu'une équipe qui paye pour avoir un mécano, si elle le perd. Est-ce qu'elle doit refaire un contrat ailleurs avec un mec plus cher, etc. Peut-être plus compliqué à gérer et l'impact sur la performance de l'écurie est peut-être beaucoup plus important que Hendrick qui sait qu'il a 4 mecs en permanence, mais que s'il en perd un des 4, il y en a encore 2 qui attendent qui sont chaud baraque parce que les mecs ils sont au charbon tous les week-ends, quoi. Alors que peut-être que la petite équipe elle va devoir aller chercher dans son crew. De Xfinity ou de je ne sais quelle autre division, d'un mec qui avait l'habitude de gérer 5 boulons, qui là doit gérer un écrou central, et qu'après tu te poses la question de savoir pourquoi des fois il y a 2 roues qui se barrent sur une semaine, quoi. parce que le type il est habitué à 5 boulons, les coûts centraux ils maîtrisent pas, ou ils le maîtrisent moins, et que le mec quand il arrive il se gare un peu en vrac parce qu'il y avait un autre sur le mec d'avant, et que ce coup là je sais pas quoi, la voiture elle était pas arrêtée comme il fallait, et que t'as enchaîné les petits problèmes qui font qu'à la fin le truc s'est mal passé quoi.
C'est possible.
J'ai pas la réponse, hein. Mais
ouais.
Ce qui est sûr, c'est que pour moi, si tu veux, enfin, tu pourras mettre tous les artifices que tu veux pour réduire les problèmes. Tu ne peux pas faire reposer l'erreur que sur le matériel.
Non.
Il faut que les bonhommes s'en remettent en question.
Oui. Oh, mais ça ne l'est pas, c'est l'humain, c'est clair.
C'est bien. Ouais, mais je pense qu'en fait, tout ça, ça part de la réflexion de Luke Duke sur le Discord.
Voilà. Quand Luke Duke, il met un message, on parle 10 minutes. Impeccable.
Luke Duke, il va mettre 3 messages la semaine prochaine. On va faire une émission.
Ça nous fera overtime.
Voilà.
Effectivement. Alors, on enchaîne ou vous voulez encore qu'on fasse le tour des autres pénalités, peut-être en Xfinity, la 9 et la 42 pour des écrous mal serrés en fin de course, les chefs d'équipe Philippe Bell et Andrew Abbott qui prennent 5000 chacun. Et en Trek, même sanction, enfin, donc c'est 2 500 € du coup pour Joey Shear Jr. sur la 98. De dollars, j'ai dit euros.
Oui, ils prennent des deux, ouais, mais c'est ça.
Ah oui, non, c'est des dollars.
Ils prennent des amendes en euros maintenant.
Bon, du coup, là, il y en a 5 et la roue, elle se barre quand même ou quoi, donc,
Non, la roue, c'est pas barré. C'est juste qu'il manquait, sur le contrôle visuel effectué à l'issue de la course, il y avait soit un écrou manquant, ou plusieurs, ou ils étaient mal installés.
Ouais. J'ai du mal à croire que...
Tu saisis la nuance, quoi.
Oui, mais j'ai du mal à croire que...
Non, les écrous, ils n'étaient pas là. Mais le terme, c'est manquant ou mal installé.
Quand tu dois mettre 3 écrous et que tu en mets 2, ou quand tu dois en mettre 5 et que tu en mets 4, je pense que ça se voit, quoi. Enfin, que tu le sais, quoi.
Ben oui, mais en fait, les mecs, ils font ça sur les arrêts précédents, parce que bah, tu gagnes...
Ça s'est fait longtemps.
0,2 par écrou non serré. Donc, 0,2 d'un côté, 0,2 de l'autre, ça fait 0,4. 0,4, ça fait 3 places de gagné.
Oui, non, mais je comprends. Mais encore une fois.
Mais sauf qu'il y en a, ils en mettaient que 3. Et il y avait des pilotes qui disaient je comprends pas, j'ai une vibration, il y a un problème sur le pneu, je rentre. Et jusqu'au jour où il y en a, la roue s'est barrée, quoi.
Ouais, après. Peut-être que 5000 balles pour certains, 5000 $ ou 2005 pour d'autres, c'est oui. Le prix de 0,4 secondes sur un ravito, quoi. Je sais rien.
Oui. Après, c'est comme tout, hein. Tant que le risque est pas plus élevé que ça et que les équipes peuvent se permettre de payer ces amendes-là, on joue, on se brûle un petit peu, mais on continue parce que finalement, on t'enlève pas le résultat à la fin.
Ouais, c'est ça, c'est...
On en revient à ce qu'Adrien disait tout à l'heure, en fait.
Ça, ouais, clairement. Le jeu en vaut la chandelle, donc on continue.
Ouais. Bah, très bien, continuons, alors.
C'est ça. Donc, rendez-vous la semaine prochaine dans Overtime pour les pénalités à l'issue de Phoenix.
Pour la première pénalité.
Effectivement. Messieurs, si on... continue un petit peu de dérouler. Alors, on pourrait parler un petit peu des audiences qui ont encore été très bonnes du côté de Las Vegas. Je sais que vous vouliez que certains en parlent, certains auditeurs voulaient qu'on en parle. Donc, encore une fois, grosse performance de la Fox avec des résultats en augmentation par rapport à la saison dernière. Forcément, je vous dis ça et je l'ai perdu. Mais
est-ce l'effet Kevin Harvick?
Pas sûr. Non, mais je suis pas...
je ne pense pas.
Non, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est Kevin Harvick. Donc, non. Pour moi, non.
Ouais,
Non, mais je te rejoins aussi. Hein, mais...
Je ne sais pas. Ça joue quand même un petit peu le duo de commentateurs, mais de là à faire fuir les gens. Alors, pour les faire fuir, je pense qu'il faut vraiment ne pas être apprécié et ne pas être audible. Pour les attirer, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu pareil, mais...
Clint Bowyer, les saisons précédentes, était quand même assez. Il a un peu changé sa manière de commenter. Je sais que jouer avec Joe.
Oui.
C'est quand même, il est quand même plus, c'est quand même beaucoup plus agréable comme qu'il fasse quelques vannes, tout ça. Bon, voilà, après, c'est son tempérament, ok, mais c'était vraiment lourd à la longue, surtout, bon, voilà, avec les courses qui sont assez longues en cup. Je pense que ouais, ça forme un bon trio, là.
Alors, les audiences, 4 359 000 téléspectateurs, donc plus 9% par rapport à l'an dernier. On était sous les 4 millions à 3 999 000. Ouais, voilà, 3 millions, ouais, c'est ça. Donc on a un petit peu augmenté. Et les marchés principaux pour cette course de Vegas, c'est Charlotte, Greensboro, Indianapolis, Norfolk et Columbus. Et un pic à 5,2 millions de téléspectateurs en fin de course entre 18h45 et 19h côte est. Donc,
Je suis un peu déçu, on n'a pas vu la sphère. On l'a pas beaucoup vue.
mais la sphère, elle est à.
Elle est au strip.
Elle est à Las Vegas, elle est dans le centre-ville.
Peut-être, mais elle est à Las Vegas, quoi.
Oui, l'Oval est quand même un petit peu excentré de la ville.
Oui, ben. Voilà quoi. Moi j'aime bien la sphère.
C'est pas grave, ils vont faire une course autour de la sphère et puis voilà quoi.
Ouais. Oh, ça peut être drôle, hein. C'est encore plus petit que le Clash, hein. Ça, il y a moyen qu'on se fasse chier quand même. Je dis ça, je dis rien.
Mais oui, on le sait. On le sait. En termes d'actualité, Lilian, si on se rapproche un petit peu de l'Europe,
Ah, vas-y.
puisque le mois prochain, le championnat européen de NASCAR débutera sa saison du côté de Valencia, et on aura un pilote connu pour ceux qui suivent la truck, c'est Ryan Vargas qui sera chez 3F Racing.
Ryan Vargas, oui, qui a décidé de faire la NASCAR World Series.
Donc voilà, Ryan Vargas qui sera présent. Ça devrait être intéressant pour lui. Et je pense que ça apportera peut-être aussi un regard un peu nouveau sur le championnat européen. Alors pas forcément pour nous, Européens, qui connaissons la NASCAR, mais peut-être plus pour les Américains, peut-être plus pour s'intéresser à ça. Je sais pas, peut-être que je me fourvoie complètement.
Bah, c'est un quoi, non, mais c'est. Je pense que oui, ça va quand même donner de la crédibilité à la série qui est quand même. Qui aille, voilà, disputer championne en Europe. Qui plus est, bon, il y a quand même une épreuve sur Oval, à Vendrée, aux Pays-Bas.
Ouais, c'est chez toi ça, ou presque.
Ouais, si on veut. Si on veut. Donc, non. Je partage son avis, ouais, franchement, pour donner de la crédibilité et pourquoi pas, ouais, démocratiser un petit peu la discipline aux États-Unis, pourquoi pas?
Mais du coup, le but de l'EuroNASCAR, c'est de faire venir la NASCAR en Europe ou c'est de ramener les Européens aux États-Unis pour regarder la NASCAR du coup?
Bah, à la base, c'est une passerelle un peu comme la mexicaine et la canadienne vers la NASCAR US. Ça permet aux pilotes de pouvoir aller rouler aux États-Unis.
Ouais, alors ça c'est marrant parce que
Il y en a quand même pas eu des masses. Il y en a eu quelques-uns. Mais...
hier je regardais une vidéo là sur YouTube de la chaîne La Boîte à Gants qui interviewait Eric Hellari.
Ouais.
Et c'est marrant parce que bon, il a raconté un peu toute son histoire depuis ses débuts jusqu'à chez Peugeot et jusqu'à sa fin de carrière en EuroNASCAR. Et justement, apparemment, là où il était, il avait un trophée énorme de race car. Et le mec qui fait l'interview là, enfin de la chaîne, savait pas ce que c'était, donc il lui a un peu expliqué et il disait qu'il est allé là-bas, enfin qu'il a fait ce championnat un peu. À la fin pour se faire plaisir, etc. Et qu'il voulait arrêter sa carrière avec un titre de champion. Et qu'en fait, la première année, il a failli gagner, mais qu'il a pas été champion, qu'il a repiqué et qu'il a réussi à être champion. Et après, il a annoncé sa retraite. Et que justement, il avait fait, je le savais pas, mais qu'il avait été aux États-Unis pour faire une course. Mais il expliquait que c'est quand même assez spécial. et qu'il y est allé, il a fait la qualif et il est rentré chez lui.
Mmh.
Parce qu'il n'a pas été qualifié.
Ouais, alors je là comme ça je saurais plus retrouver où c'était.
Et c'était quoi? C'était en arcade du coup?
Je ne saurais pas te dire. Il disait que c'était un grand ovale. Donc je connais pas le circuit, je sais pas où c'était, mais il disait qu'il avait fait un déplacement et que il avait fait la qualif et merci monsieur, au revoir, retour maison.
Ouais, oui, non, mais ça. Ça peut arriver, hein, ce genre de mésaventure.
Ah mais c'est quand même, enfin dans le genre mauvaise pub, c'est pas mal quoi.
Alors
Enfin.
attends, alors attends, j'ai trouvé un article
C'était
qui
en
dit.
c'était en 2012 en Arca.
Alors moi là,
Donc
j'ai le pilote
à
français
Loudun.
expérimenté.
C'était à
Ouais, moi c'est
Loudun en
ça, j'ai
Arca.
Loudun en Cayenne.
Oui, alors anciennement Arca, aujourd'hui Cayenne.
Oui, c'est ça. Donc Loudun, non, c'est pas très grand.
Oui, mais par rapport à ce que tu as en Europe,
Par rapport à Tours, c'est plus grand.
par rapport à Tours, c'est plus grand, par rapport à Vénéré, c'est plus grand. Et il faut pas oublier que en Cayenne à l'époque, enfin et aujourd'hui en Arca Est, des ovales d'un mile, ce sont des grands ovales. On va pas sur tout ce qui est Michigan, l'ovale d'un mile et demi, toutes ces choses-là, on n'y va pas. On est sur du short track ou du 1 mile. Donc c'est peut-être aussi pour ça la confusion qui a pu y avoir. C'est un grand ovale pour la série, mais pas à l'échelle de la NASCAR.
Moi j'ai trouvé ça marrant parce que je savais qu'il avait roulé en NASCAR Euro Series en fin de carrière et c'est un mec que j'aime bien donc ça faisait 2-3 fois que je voyais la vignette passer puis hier soir j'ai pris le temps de l'écouter et bon si vous connaissez un peu le pilote etc ça peut être marrant de regarder la vidéo si vous voulez mais c'est enfin quand il a raconté ça. Quand ils ont commencé à parler du trophée, je me suis dit, ah bah cool, on va voir s'ils parlent un peu d'Euro NASCAR et tout. Et je me suis dit, mais oh la loose quoi en fait. La promo de la série, c'est zéro quoi.
Est-ce que tu veux que je te fasse le top 5 de cette course de Loudon en 2000?
Je sais pas ce que ça m'apportera parce que je connais personne donc.
Bah alors je vais te le faire.
Bah
Premier
vas-y.
Kyle Larson.
Ouais, d'accord.
Bah c'était sûr. S'il dit ça, c'est que tu les connais, Adrien.
Deuxième Corey LaJoie. Troisième Bubba Wallace. Quatrième Dylan Kasneski. Cinquième Chase Elliott.
Ah,
Ah, quand
je me suis dit qu'il va bien y avoir Ryan.
même. Non, il y avait Travis Pastrana qui était septième sur cette course. T'avais
Et
Daniel Suarez, Brett Moffitt, enfin des noms qu'on connaît encore aujourd'hui.
oui. Bah oui.
La qualif, t'as le résultat de la qualif? Je pense pas, mais. Ce qui serait marrant, c'est de voir quelle était la pole, en combien était le dernier, et se dire que bah lui, il était au moins derrière, donc est-ce que
Alors,
c'est gigantesque ou.
la pole, c'est Brett Moffitt devant Sergio Peña.
Le tour se fait en combien?
Brett Moffitt, il avait fait la pole en 128,467 miles par heure. Là, comme ça, je.
Et le dernier, il est loin ou il est en 135 ou il est en
J'ai.
128,5 et 128,7 quoi?
Non, j'ai pas les résultats détaillés
Pas
de
le
la pole.
détail?
Non, non, j'ai pas le détail. Je peux
Ouais,
juste te donner que la vitesse moyenne de la pole.
c'est un peu loin, mais.
Mais voilà, enfin
Mais dans.
après.
Dans ces catégories-là, là, en général, c'est serré ou c'est
Bah alors,
plutôt.
c'est serré devant et après, c'est très disparate parce que t'as des équipes qui sont professionnelles ou professionnalisantes et t'as des équipes familiales de chez familiales, quoi.
Ouais, mais du coup, tu te dis, est-ce qu'il est tombé dans une caisse de merde, dans une équipe de merde, est-ce qu'il a pas eu de bol? Je vais le dire, mais j'y crois pas trop. Est-ce que c'est un manche? Bon, quand tu connais son palmarès, j'explorerais quand même cette hypothèse-là parce qu'il en a tourné quelques-uns des cerceaux et Larry, puis il disait quand même qu'il avait gagné 80 et quelques courses dans sa carrière. Donc c'est quand même, il a quand même un certain nombre de victoires. Donc tu mets plus ça sur le coup de l'équipe, de la bagnole, de la spécificité de la chose, que sur la compétence du pilote en fait.
Ben, quand tu regardes bien, la voiture, elle n'a été engagée que sur cette course-là de Loudon en 2012. En 2011, il n'avait fait que les deux courses de Loudon pour comme résultat, c'est ça, c'est la bonne colonne, 36e et 31e. En 2010, ils avaient fait un peu plus de courses, mais ils en avaient fait deux. Enfin, tu vois,
Cette
donc.
équipe-là, tu parles, hein?
Oui, je parle vraiment de cette équipe-là.
Ouais, donc il est tombé dans une équipe. C'est. J'allais
C'était.
dire quelque chose, mais je vais pas le dire parce que je pourrais avoir des problèmes.
C'était une équipe
Mais.
de fond de peloton. Ça clairement, c'était pas un cadeau pour lui.
Ouais, donc. Enfin. T'y vas pour visiter les États-Unis, mais ça s'arrête là, quoi.
Oui, c'est dommage parce que du coup, bah, ça te renforce le fait que bah, l'Euro NASCAR, c'est bien pour les Européens, mais dès qu'ils arrivent sur un ovale aux États-Unis, ils savent pas rouler.
Ouais, ou non mais regardez pas ça, c'est trop spécifique. C'est ce qu'avait plus ou moins dit Seb Bourdais quand on l'avait interviewé sur le comment elle s'appelle la série là
Sur IROC.
qui sur
La
l'Iroc
série,
en disant
oui,
ouais
c'est ça.
en disant c'est sympa mais c'est quand même hyper spécialisé donc si tu veux te faire fumer par des spécialistes locaux tu peux y aller. Donc t'as envie de dire ouais mais je veux pas regarder ça parce que c'est un truc hyper spécifique et ça m'intéresse pas en fait. C'est quand même bizarre quoi, tu pourrais te dire un mec qui roule une Porsche, une BM, un proto, je sais pas quoi, il va arriver à s'en sortir. Et là, t'as l'impression que le mec, tu le jettes dans une voiture, il sait plus comment ça marche quoi.
Oui, alors que non, tu disais, eu égard au palmarès d'Eric Hillary, tu sais que c'est un pilote.
Ouais, donc, enfin, je trouve, enfin, toi, je trouve que l'image, elle est négative de partout en fait.
Oui.
On te dit que c'est trop spécialiste. Que ça correspond pas du tout à ce qu'on fait en Europe, donc en fait, bah regarde même pas, ça sert à rien. Les mecs qui voient arriver un gars de l'autre côté de l'Atlantique, ils se disent, oh bonjour, t'es qui? Ils le voient monter dans la voiture, de l'autre côté, ils se disent, non mais il sait pas conduire ce type, c'est un clown. Il est même pas foutu de se qualifier, quoi. Et alors qu'en fait, ben non, quand tu regardes son palmarès outre-Atlantique, il a quand même gagné un certain nombre de courses en Super Tourisme, 24 heures du Mans, le mec il est champion de la discipline là-bas pour la deuxième saison, donc c'est. Il n'y a pas rien qui va, mais presque en fait, quoi.
Oui. Donc, ouais, c'est. Et ça a souvent été ça, quand même, les venues des pilotes européens sur les courses aux États-Unis, que ce soit sur ovale ou sur circuit routier, ça a rarement été avec des voitures de premier rôle. Hein.
Ouais, mais alors tu me diras. Enfin, je trouve que ça rend pas service. Enfin, je trouve que ça rend service à personne. Là, si demain. Bah, tiens. J'ai envie de dire. Supposons que t'es des pilotes de NASCAR qui fassent des courses d'IndyCar.
Bon, on a déjà des pilotes NASCAR qui font des podcasts IndyCar.
Ok, enfin. Ça serait quand même dommage de les foutre dans les caisses pourries. Et de se dire que les mecs, ils arriveront pas à se qualifier à la course, quoi. Enfin, regarde, allez-y, quand il a essayé de faire Indy,
Mais la Lotus.
Ah, ben là,
il avait un
ouais.
chameau et il pouvait rien faire, en fait.
Oui, enfin, tu aimes ou t'aimes pas, allez-y, il était quand même pas aidé par la Lotus, hein.
Oui, non, mais d'accord, mais
Il avait un char,
c'est pas le bonhomme. Il a récupéré une caisse d'Aubé et il a rien fait, en fait.
bah oui.
Alors après, est-ce que c'est lui qui a mal négocié, machin, j'en sais rien, mais enfin, t'as perdu avant d'avoir commencé, quoi.
Ah oui,
Est-ce qu'il
clairement.
le savait ou pas, j'en sais rien. Mais opération, c'est pas win-win, quoi, c'est.
C'est lose-lose.
Ouais.
Alors qu'un Kyle Larson, ce sera dans une McLaren.
Bah voilà. Et là, on va se dire, ah ouais, le mec, touche quoi. Bah ouais, mais il a aussi du bon matos, quoi, donc.
Bah Alonso, la première fois, sa première venue à Indy, c'était ça.
Et qu'est-ce que m'a répondu Romain hier quand je lui ai dit quelles sont tes ambitions personnelles? M'a répondu en sport automobile, l'ambition personnelle dépend quand même du matériel que tu as, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Bon, il a rien inventé et je pense que personne ne le découvre.
Il a déjà dit
Mais.
qu'il serait pas la pole à Saint-Pete.
Ouais, donc. Enfin, je sais pas, si tu fais venir un mec en Europe, enfin un mec d'Europe pour le faire rouler dans un truc comme ça, je sais pas, fous-le dans une caisse de chez Hendrick, quoi. Pas le même prix, on est d'accord, il doit pas facturer de la même manière. Mais mets-le dans une structure où le mec il peut au moins montrer ce qu'il vaut, quoi. Le mets pas dans un char à voile où il peut rien faire en fait.
Oui, je suis d'accord.
Bon, on a encore dévié, j'ai fait encore un bac à sable, désolé.
C'est
Ça en
Sortie de
aurait
piste.
beaucoup ce soir.
Sortie de piste. Allez, on essaye de poursuivre. Il ne reste plus grand-chose, messieurs. Allez, un tout petit peu de sérieux.
Promis, je sors plus de piste.
Ouais, t'es dehors, ne reviens pas.
Ok.
Le problème, c'est que moi, si je parle trop longtemps, mon micro coupe. Alors, t'es obligé de parler du coup, Adrien.
Ouais, mais ça me dérange pas. Faut m'arrêter, hein.
On va parler de Goodyear, messieurs, et du
Oula.
North Willsboro Speedway, puisque le 12 mars prochain, c'est-à-dire mardi, ben ça, la Truck et la Cup seront en essai pour Goodyear afin de préparer les courses qui auront lieu là-bas au mois de mai, puisque c'est aussi la première fois depuis 1984 qu'on a une nouvelle enrobée sur ce circuit de North Willsboro. Donc, les pilotes qui seront présents en truck, on aura Ben Rhodes pour Ford, Corey Heim pour Toyota et Christian Eckes pour Chevrolet. En cup, pardon, ce sera Joey Logano pour Ford, Ty Gibbs pour Toyota et William Byron pour Chevrolet. Donc voilà, on prépare avec trois pilotes la course du mois de mai. Et du côté de chez Goodyear, on va venir avec normalement différents composés pour préparer au mieux cette course et avoir les meilleurs pneus possibles pour la course du mois de mai. Sachant que, comme tu l'as dit, Adrien, on va préparer la course du mois de mai hein, au mois de mars avec des températures différentes. Mais bon, c'est pas grave.
C'est comme ça.
C'est comme ça. On a perdu Adrien?
Non, non, je suis encore là.
Non, non.
Ah oui.
Test, non, on va déborder.
Non, non, mais il n'y a pas de souci.
On n'a pas de limite de temps sur Overtime, on est bon.
Non, non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Donc,
donc voilà un petit peu pour ces infos. Des essais qui seront fermés au public. Et ce sera même le mardi 12 et le mercredi 13. Ce sera sur 2 jours. Et oui, Lilian, comme tu me le souffles si bien, sauf s'il y a de la pluie dimanche, ça pourrait être reporté. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
À Phoenix, ça devrait aller.
Ouais, je me souviens de gens qui ont déjà dit Phoenix, hein, il fait toujours beau, il pleut jamais. Et une année, il y a eu de la neige. Donc, on va se détendre. Tout peut arriver, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Mais justement, en parlant de Phoenix, Lilian, Adrien, un petit prono ou pas de prono? Un petit prono. Donc toi, tu fais Geoffroy plus un. Donc pour toi, c'est Kyle Busch à Phoenix.
Ouais.
Adrien, Lilian, t'as dit William Byron et j'ai dit Austin Cindric.
Pendant que Lilian fait son prono, moi, je change de batterie, je vais au stand, j'ai plus de batterie.
Il a trop parlé.
Aïe, 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 aïe. Oh là là, ces gens qui regardent trop la Formule E, qui sont obligés de changer de batterie à chaque fois. Incroyable. Donc, dernier sujet, Lilian.
La rumeur.
Oui, c'est ça, c'est pour l'instant, c'est une rumeur. La NASCAR qui pourrait aller au Dodger Stadium de Los Angeles dans les prochaines années. Alors, quand, pour l'instant, on ne sait pas. L'idée, c'est de conserver une course en Californie du Sud. Ouais, parce que voilà, on n'a rien de ce côté-là.
On a perdu Fontana, qui plus est.
Pour l'instant, Fontana, c'est plus un champ de patates qu'autre chose. Donc on n'y est pas. Le Coliseum de Los Angeles, ben, on a vu que c'était sympa, mais on y a fait 3 ans et on pourrait aller voir ailleurs. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. On ne sait pas si ce sera dans le stade de baseball des Dodgers. Ou si ce sera une course urbaine à l'extérieur du stade. Mais voilà, on va garder un petit peu ça, quoi.
Ouais, pourquoi pas.
À suivre. Toi, tu serais favorable à quoi?
Clairement, Coliseum, on a fait 3 ans, on a vu. On est arrivé au terme du contrat, qu'on aille voir ailleurs. Pourquoi pas tenter un stade de baseball? Sincèrement, je demande à voir.
Ok.
C'est du hors championnat. Ouais, faut être ouvert. On y va, quoi, clair.
Ok. Ok, donc pour toi, on essaye. Après,
Non, mais je sais pas, dis-moi, ou enfin vous deux, tant qu'Adrien il change, il fait son arrêt au stade.
Ah, c'est bon, je suis revenu, je suis
Mais
revenu.
la forme du stade est assez atypique, hein, parce que c'est un stade de baseball, donc on est plus proche d'un. Ouais, au niveau des ovales, on serait proche de quoi? D'un.
Ils nous feront un mini Pocono?
Un Pocono Nazareth, peut-être? Un peu un truc entre les deux?
Ouais, c'est vrai, ouais, Nazareth, bien vu.
J'ai plus un petit peu un Nazareth, mais en petit. Hein. Donc voilà. Et puis si c'est Nazareth, on aura Ty Gibbs avec son sponsor Jésus, là, et on sera dans le thème. Adrien, t'en penses quoi, toi, de cette histoire de changement de stade ou de délocalisation dans la Californie du Sud? Ou dans le sud de la Californie, hein, parce que c'est pas un État, la Californie du
J'ai
Sud.
pas tout suivi, donc j'en pense pas grand-chose.
D'accord, t'en penses pas moins, ok.
Ok, bon, il veut plus parler, ça y est.
Non, non, mais j'ai pas. J'ai raté la moitié des trucs, donc je sais pas. J'ai pas d'avis, en fait.
D'accord,
Et
ok.
comme j'ai pas envie de vous faire répéter, Joker.
T'écouteras le podcast et
Exactement.
tu nous attends ton avis la semaine prochaine. Je m'en étouffe.
C'est ce que
Ou
j'allais
pas.
dire.
Ou pas parce que t'auras pas d'avis. D'accord, ok.
Ouais.
Donc, bah, à voir si le si ça se concrétise ou non, cette information qui a été sortie par Adam Stern et le Sports Business Journal. Donc, toujours quelqu'un de très bien informé.
C'est clair.
Donc. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur l'actualité de la semaine, sur un petit peu tout. Si on est même honnête, il y en a même une qui est tombée là pendant qu'on enregistrait. C'est Dale Earnhardt Jr. Qui va lancer via sa boîte de production Dirty Mo un podcast consacré à l'IndyCar.
Et un podcast de plus, t'as écouté.
Non, non, un tunnel de pub en plus.
Oh.
Ah, vous rigolez, vous vous foutez de moi, mais oui, il y a quand même beaucoup de publicité. Après, la publicité finance le produit, on est d'accord là-dessus.
Et pas, j'en ai pas écouté un seul, donc je peux pas te dire.
Bah écoute, à l'occasion.
Oh, Denis Hamlin, c'est pire, j'ai l'impression.
Bah, c'est peut-être en fait Denis Amin qui finance le tout. Enfin, le podcast de Denis Amin qui finance le tout. Donc, ben bon après voilà, hein, faut bien vivre et la publicité est un moyen de
Ouais, parce
recette comme un autre.
que le podcast de Denis Hamlin, c'est aussi du Dirty Mo.
Oui, c'est du Dirty Mo.
Oui, c'est ça.
Et qui c'est qui tient ce Dirty Mo là?
C'est
C'est
Dale Earnhardt
Dale Earnhardt
Jr.
Jr.
C'est lui le patron.
C'est lui le
Yes.
patron, ouais.
D'accord. Ok.
DBC, c'est Dirty Mo également.
Oui. Ouais, y a beaucoup de podcasts comme ça qui sont. Il y en a quelques-uns, Dale Earnhardt Jr., des podcasts. Après, tant mieux, hein, ça permet d'avoir du contenu. Mais c'est vrai que. Tu peux même pas te dire, je vais m'abonner pour pas avoir de pub, je crois que c'est pas possible. Mais bon, voilà. Je crois que, messieurs, qu'on a réellement fait le tour. On va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes, quelles qu'elles soient, pour cette émission à rallonge. Puisqu'on est à près d'une heure et demie d'émission. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les différentes plateformes pour faire vivre ce podcast et pour le continuer à bien le référencer. Et puis nous, on va se retrouver cette semaine pour suivre les courses de Phoenix et de Saint-Pétersbourg. Et la semaine prochaine dans Splash & Go pour débriefer tout ça. Et dans Overtime pour parler de tout ce dont on n'aura pas pu parler dans Splash & Go. Merci Adrien, merci Lilian. Et puis à très vite sur US Racing. Bye bye!
Ciao!
Merci à tous.